franceinter.fr.
Bonjour Audrey Azoulay.
Bonjour Patrick Cohen.
Ce n'est pas votre premier festival, je rappelle que vous avez passé 8 ans au CNC, Centre National du Cinéma, mais c'est votre premier Cannes comme ministre, alors qu'une partie du pays gronde et défile, que la gauche se déchire avec fracas. Vous n'avez pas le sentiment d'un grand décalage, d'être là à Cannes, membre du gouvernement, dans une sorte de bulle qui se distrait et s'amuse?
Je crois qu'au gouvernement, tout le monde est au travail, et moi aussi. Vous le rappeliez ce matin, ça fait 6 mois que la France a été bouleversée par les attentats qui ont arraché autant de vies. Et ces attentats nous disaient aussi ce qui était attaqué à ce moment-là, c'est-à-dire aussi la culture, aussi notre façon de vivre. Et je crois que Cannes est représentatif aussi de ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays pour qui la culture est très importante, un pays qui rayonne à travers ça. Et je crois que c'était mon rôle aussi d'être là.
La question sociale se pose, à vous aussi, avec le régime des intermittents qui vient de faire l'objet d'un préaccord entre syndicats et patronats du spectacle, avec des règles plus avantageuses pour les intermittents qui auraient 12 mois au lieu de 10 pour effectuer leurs 507 heures. Mais ce projet doit être validé au niveau interprofessionnel et il ne dégage pas les économies demandées par le MEDEF. Pour vous, d'abord, Audrey Azoulay, est-ce que c'est un bon accord dont vous soutiendrez la mise en œuvre au plus vite?
Je crois que c'est un accord qui est véritablement historique. On a, pour la première fois, un accord qui est équilibré, parce que vous le dites, il y a des droits nouveaux pour les artistes et les techniciens du spectacle, mais il y a aussi un équilibre général qui fait que cet accord contribue mieux à l'équilibre général de l'accord interprofessionnel sur l'assurance chômage. Il y a des économies qui sont produites. Nous sommes en train de les chiffrer. Elles tournent autour d'une centaine de millions.
Une centaine de millions.
Il y a un comité de chiffrage aujourd'hui qui est au travail. Et ce sera ensuite la responsabilité des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel que de valider cet accord. Mais avant cela, il faut vraiment, je crois, souligner la responsabilité et vraiment la maturité des partenaires sociaux du spectacle qui ont réussi à trouver cet accord équilibré.
Oui, mais si ça se fait sur le dos des comptes de l'UNEDIC, ça ne va pas et ça ne résout pas la question de l'équilibre des comptes ou du déficit.
Vous savez, pour l'UNEDIC, il y a une recherche d'économie générale. Et là, ce secteur contribue à hauteur d'une centaine de millions d'euros à un meilleur équilibre. Donc au contraire, il produit des économies tout en ouvrant des droits nouveaux qui étaient laissés en déshérence depuis plus de 10 ans et dans une négociation équilibrée.
Est-ce que l'État va participer au financement comme le suggère le MEDEF?
C'était ce qu'a demandé le MEDEF dans sa lettre de cadrage initiale. C'est pas ce que souhaitent les partenaires sociaux. Aujourd'hui, ce que l'État a dit et qu'il ferait, c'est qu'il accompagne l'emploi dans le spectacle par un fonds dédié à l'emploi, un fonds de 90 millions d'euros dont nous sommes en train de dessiner les contours. Et ensuite, chacun prendra ses responsabilités.
La menace n'est donc pas levée pour les festivals de l'été. Vous voyez ces intermittents qui maintiennent la pression ici et là.
Oui, la négociation n'est pas finie. Mais encore une fois, jamais les étapes ne s'étaient déroulées aussi bien. Ils ont rempli vraiment leur contrat en négociant. Et pour la première fois, c'était à eux de négocier. C'est ça aussi qui a changé. Auparavant, ils n'avaient pas les clés de la négociation.
Et une mise en place au 1er juillet, ça vous paraît possible, imaginable?
On va attendre la réponse des partenaires sociaux, mais en principe, en tout cas, tout est fait pour que ça puisse être entré en vigueur rapidement.
Canal+, est-ce que c'est aussi un motif d'inquiétude pour vous, Canal qui joue un rôle central dans le financement du cinéma?
C'est vrai que depuis son origine, en fait, depuis sa création, Canal+ a été autorisé en contrepartie d'obligations de financement de la création. Donc c'est un partenaire majeur pour le cinéma, un peu plus marginal pour l'audiovisuel, mais majeur pour le cinéma. Aujourd'hui, Canal+ est confronté à une concurrence, une compétition forte, notamment sur la diffusion des compétitions sportives. Donc ils essayent d'améliorer et de changer leur modèle. C'est leur responsabilité. Moi, la mienne, c'est de s'assurer qu'ils continuent à financer la création, ce qui est la contrepartie de leur autorisation.
Et vous avez cette assurance?
Il y a des engagements qui ont été pris, mais je dirais que nous verrons à ce qu'ils soient respectés.
Parce que si la chaîne ferme, le financement s'arrête. Et
personne ne le souhaite, je crois. Pas plus les actionnaires, que les salariés, que le public, que les pouvoirs publics.
Oui, mais c'est une perspective qui a été dressée par le propriétaire lui-même, Vincent Bolloré. Ça ne vous a pas échappé?
Absolument. Il a évoqué les difficultés, par ailleurs, qu'il souhaite contourner en ce moment, en passant de nouveaux accords, notamment sur le sport.
La dernière fois qu'on a parlé de financement du cinéma, c'était il y a quelques mois pour ce qu'on a appelé l'amendement Besson, allègement d'impôts qui a convaincu Luc Besson de revenir tourner en France. Vous avez pu évaluer depuis l'impact de cette mesure à la fois pour les caisses de l'État et pour l'économie du cinéma?
Alors, il y a un amendement qui n'est pas un amendement Besson parce qu'il est beaucoup plus large, qui concerne tous les films en français, les films français en langues étrangères, les films étrangers qui se tournent en France.
Voilà, c'était le deuxième cas pour Luc Besson, un film français.
Voilà, un film français
en langue étrangère.
Voilà, tourné en France mais en langues étrangères. En réalité, ce qui a été décidé, c'est une mesure sans précédent, c'est de soutenir le tournage de ces films par une mesure fiscale en France. Et c'est un impact qui est aujourd'hui estimé à environ 200 millions d'euros de dépenses supplémentaires en France, avec 10 000 emplois derrière. Donc en fait, cette mesure vient soutenir, je dirais, toute une industrie d'excellence sur notre territoire, bien au-delà d'un seul film, puisque
le manque à gagner dans les caisses de l'État.
C'est un investissement. On estime la dépense publique à hauteur de à peu près 50 millions d'euros. Donc c'est un investissement, c'est quelque chose qui rapporte de l'emploi, qui rapporte de la dépense en France. On avait auparavant des films à grand budget français qui partaient se tourner ailleurs en Europe parce que les coûts étaient moindres, mais alors qu'on a des compétences d'excellence en France. Donc l'intérêt, c'est de faire revenir ces tournages et en même temps de créer de l'emploi.
Mais c'est du dumping fiscal. Vous faites pour le cinéma ce que vous reprochez à l'Irlande ou à la Grande-Bretagne pour l'impôt sur les sociétés.
Et ce serait mieux que ce soit effectivement harmonisé. Ça ne l'est pas.
Au niveau européen.
Ça ne l'est pas aujourd'hui. Mais là où ce n'est pas du dumping, je ne vous rejoins pas, c'est qu'il s'agit surtout de films français qui, eux, partaient se délocaliser. Notre objectif, c'est de les retenir.
Et les plateformes comme Netflix qui diffusent beaucoup de films et ne paient pas beaucoup d'impôts, elles ne devraient pas contribuer au financement aussi?
Absolument, et c'est d'ailleurs l'objet d'un colloque qui est organisé ici à Cannes avec la Commission européenne, avec ses opérateurs du numérique. C'est un problème, je dirais, de fiscalité générale qui s'applique pas uniquement au financement du cinéma ou de l'audiovisuel. On a des acteurs puissants, mais qui sont multinationaux et que nos règles n'arrivent pas bien à appréhender. Et donc, pour les amener à contribuer à la création européenne et française, il faut que nous aussi nous adaptions notre système. Et ça se passe surtout au niveau européen, mais la France est, je dirais, aux avant-postes de ce combat. Mais ce sont des opérateurs qui investissent aujourd'hui dans la création, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils en ont besoin pour avoir des abonnés, pour avoir du chiffre d'affaires.
En tout cas, le système génère beaucoup de films. 234 films français sont sortis l'an dernier. C'est un record absolu. Beaucoup de films pas toujours visibles. Les producteurs indépendants voudraient que les petits films soient mieux distribués, mieux montrés. Comment faire?
C'est l'objet d'une réflexion collective que nous avons menée et que les professionnels ont menée. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'un accord va être signé cet après-midi même à Cannes, après une grande négociation entre les salles de cinéma, les distributeurs de films, les producteurs, pour qu'il puisse y avoir, je dirais, une plus grande part à la diversité des films dans les salles, et aussi que les publics puissent avoir accès aux films les plus diversifiés sur tous les territoires, c'est-à-dire y compris en zone rurale, y compris dans les villes de moins de 50 000 habitants, et c'est par une régulation film. Mais on a en France un système exceptionnel de salles de cinéma, un réseau très dense sur tout le territoire, et on a aussi la chance d'avoir une production très forte. Aucun pays en Europe n'a conservé cela.
Votre dernier coup de cœur au cinéma?
Ah, je crois que c'est le film que j'ai vu hier soir.
Qui était?
Qui était Victoria de Justine Triet. Formidable film que j'ai vu à la semaine de la critique avec une Virginie Efira exceptionnelle.
À la télé, j'ai vu que vous aimiez les séries, vous voulez créer un festival de séries. Vous avez aimé Baron Noir sur Canal avec un personnage de conseillère du président. Comment s'appelait-elle? Amélie Dorandeux, jouée par Anna Mouglalis, dont on a dit qu'elle vous ressemblait un peu. C'est pas vrai?
Alors les séries, je trouve que c'est majeur, puisque aujourd'hui le public aime ça et ça façonne notre imaginaire. Très puissant. J'ai vu aussi Le Bureau des Légendes, que j'ai beaucoup apprécié.
Oui, avec Kassovitz.
Avec Kassovitz, dont j'attends la deuxième saison qui commence. Et donc l'idée est de créer un festival des séries international, oui, par rapport aux forces qu'on a déjà aujourd'hui.
Mais pas
avec
à Cannes,
le
maire de Cannes n'était pas content quand il a entendu parler d'un festival de Cannes des séries, mais pas à Cannes.
Alors on n'a pas utilisé le terme de festival de Cannes, mais c'est festival des séries, voilà.
Bon. Bon, et la personnage de conseillère dans Le Baron Noir, non?
Son personnage? Non, je n'ai pas vu le lien avec moi.
Non, vous n'avez pas vu le lien?
Non.
Parce qu'elle est trop ambitieuse pour...
Non, je ne sais pas, pas du tout.
Merci Audrey Azoulay. Cannes continue à 8h20 avec Fabrice Lucchini et Bruno Dumont. Il est 8h-3 sur Inter.